Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Complètement à l'Ouest, l'émission qui secoue, qui vous renverse et qui vous emmène dans des univers que vous côtoyez pas forcément tous les jours. Aujourd'hui, nous allons nous trouver au cœur de la connexion avec le plus dingue, mais le plus geek d'entre nous qui fréquente, qui attend frénétiquement la 5G. C'était pour la rime, c'est Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Billy.
Vous l'attendez la 5G,
ah,
vous?
Impatiemment.
Voilà, moi je ne sais même pas si ça va pas nous faire peur. Mon cher Philippe, Complètement à l'Ouest, nous sommes partis encore dans d'autres univers. J'aimerais que vous me présentiez votre invité.
Alors, nous allons parler aujourd'hui, en effet, de technologie, avec le titre de cette émission, Rendre le futur désirable. Mais ce n'est pas un scoop. Internet fait partie de nos vies. Mm-hmm. Nos smartphones, nos applis, nos tablettes, nos ordinateurs portables, tous sont connectés à tout et tout le temps. On se demande d'ailleurs comment on pouvait vivre, travailler, voyager, se nourrir, se déplacer, avant que ces nouvelles technologies révolutionnent nos vies à ce point. Écoutez d'ailleurs, ce micro-trottoir, c'était il y a 24 ans, en 1996. Ce n'est pourtant pas si vieux. Et à la question « C'est quoi Internet ?», voici ce que répondaient Madame et Monsieur Tout-le-Monde.
Internet, alors je sais
système
pas.
Système informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information.
Voilà. Vous voyez, il est intelligent, mon copain.
C'est des boîtes à terrible.
C'est un programme qui permet de savoir, un peu tout.
Internet, c'est le nettoyage.
Internet? Ah, bah, je sais pas ce que ça veut dire.
Inter quoi?
C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet!
Ouais.
Ben, je sais pas.
J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Et qu'il faut un ordinateur pour cela, non?
24 années se sont écoulées depuis cette archive et on peut avoir l'impression que l'on ne parle pas du tout du même monde. Jamais les sciences et les technologies n'ont connu de telles avancées. Alors qu'il est certain que les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives et l'informatique quantique changeront la face du monde et du vivant, Internet, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la 5G sont aujourd'hui des évidences qui bouleversent déjà notre quotidien. D'ici à 3 décennies, toutes ces innovations auront changé la face du monde. Démographie, climat, équilibre géostratégique, procréation, santé, éducation, travail, relations familiales et sociales, loisirs, ville, culture, mobilité. C'est une certitude, le futur est difficile à imaginer. Comme le dit l'historien Yuval Noah Harari, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas la moindre idée de ce que sera le monde dans 20 ou 30 ans. Rendre le futur désirable, c'est notre sujet du jour. C'est parti, droit devant. Larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Et complètement à l'ouest avec la réponse à ma question, qui est notre invité, Philippe.
Alors, pour cette nouvelle émission sur le futur désirable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Ezrati, un très grand connaisseur et reconnu comme tel du monde des nouvelles technologies.
Et ben, on va le rejoindre dans un instant.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Olivier Ezrati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En entendant Philippe Boyer parler de ce futur, j'ai en tête une pub qu'on entend beaucoup en ce moment. Peu importe pour quel produit, mais ça dit si vous avez résisté à ne pas travailler sans avoir Internet pour les renseignements. Si vous avez résisté à vous déplacer sans GPS, vous résisterez à telle chose. Et là, ils vendent leurs produits. Bien sûr qu'on a vécu avant.
Bah oui, moi-même.
Avant que Philippe vous pose vos questions.
Moi, j'ai fait mes études avant Internet.
Oui. On allait à la bibliothèque.
Longtemps avant Internet, et j'allais à Beaubourg, à la bibliothèque. Voilà. Bon, ceci étant, maintenant que je fais encore des études, puisque j'explore de nouveaux sujets régulièrement, j'apprécie de pouvoir avoir ça sur mon laptop, d'avoir accès à une quantité d'informations et de savoir scientifique à l'échelle mondiale facilement, ce qui était difficile il y a 30-40 ans. Donc moi, j'en profite à plein.
Voilà. Allez, Philippe, on y va.
Alors, Olivier, vous êtes un grand voyageur et notamment un des fidèles du CES de Las Vegas. Et vous publiez toutes les années depuis 15 ans le fameux rapport d'Olivier Ezrati sur le CES. Et d'ailleurs, ce dernier rapport est en libre accès sur votre site internet, 366 pages, excusez du peu. Et ça montre qu'une fois encore, il y a vraiment à boire et à manger dans ce salon qui, toutes les années, défraye la chronique. Et je voudrais, pour commencer, et ceci en l'espace de quelques minutes, là est le défi, que vous puissiez nous faire part des tendances de fond que vous retenez de cette édition 2020.
En fait, décrire les tendances d'un salon, c'est décrire les tendances de l'ensemble de l'industrie. L'industrie des loisirs numériques, l'industrie des biens de consommation pour le grand public. Donc ça couvre tous les domaines imaginables. Le premier qui est frappant au CES, c'est le monde de l'automobile. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et le changement cette année, c'est qu'on a entendu beaucoup moins parler que d'habitude des véhicules autonomes. Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours qui fonctionnent dans des zones protégées, hein. Mais on voyait beaucoup plus parler de ce qu'on appellerait la collaboration entre le véhicule et le conducteur, avec des outils qui vont faciliter la vie du conducteur, mais qui ne vont pas la remplacer. Donc ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance dans la mobilité, celle-là virtuelle, c'est l'avènement de la 5G. Alors les premières offres 5G des opérateurs télécoms sont arrivées dans la plupart des pays du monde, en tout cas développées en Corée, en Chine, aux États-Unis. En France, on n'en est pas trop loin, mais ça devrait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des constructeurs de smartphones qui présentent des téléphones, qui essayent de mettre en avant des usages de la 5G qui sont difficiles à imaginer encore aujourd'hui, parce que quand on multiplie le débit par 5 ou 10, c'est pas évident de savoir ce qu'on va en faire. Alors, la plupart des usages tournent autour de la vidéo. On voit beaucoup d'objets connectés aussi sur ce salon, des objets connectés pour la maison, pour soi-même, pour la santé, pour le sommeil, pour un nombre de catégories d'usages absolument incroyables. Et tous les ans, effectivement, on peut trouver des objets connectés plus ou moins utiles qui, dans certains cas, font partie de mon bêtisier, mais c'est marrant.
Par exemple,
oui.
Bon, j'ai trouvé une machine italienne qui permet de faire fondre des glaçons d'huile d'olive pour avoir de l'huile d'olive fraîche. Parce qu'en fait, les glaçons sont congelés à la sortie du pressoir en Italie et on les décongèle avec la machine. Ça permet d'avoir une huile qui a les senteurs du pressoir, quoi, de la fraîcheur du pressoir. On trouve des choses assez rigolotes aussi dans le monde des objets connectés destinés aux animaux domestiques.
Bon, un exemple, année,
allez, un exemple.
Bon, y a des litières connectées pour les chats, il y a des systèmes qui mesurent tout, la santé de l'animal avec un os à ronger connecté. J'ai trouvé des systèmes qui pèsent le chat toute la journée pour voir s'il va grossir ou maigrir. Il y en a d'autres qui servent à mesurer, carrément faire de la biologie sur l'urine du chat pour voir s'il est en bonne santé. C'est assez sidérant. Il y a même des systèmes avec des gamelles connectées qui savent donner à manger au chat que si c'est votre chat et pas au chat du voisin.
Oula.
Donc ça peut aller très loin. Hein,
mais tout ça, finalement, est-ce qu'on peut continuer à parler d'innovation alors que, comme vous le dites, ce ne sont que des gadgets qui ne changent pas notre vie ?
Le principe d'une innovation, c'est une technologie qui arrive dans les mains du grand public. Donc si ça ne se vend pas, ça s'appelle un échec. Si ça se vend, on appelle ça une innovation. Puis entre les deux, c'est l'incertitude. Mais il faut savoir que dans le monde de l'innovation, il y a beaucoup de choses qui sont adoptées par le grand public qui ne sont pas utiles au sens classique du terme. Est-ce que, par exemple, Pokémon Go, c'est utile ? C'est une application utilisée par des centaines de millions de gens. Mais ce n'est pas utile au sens classique du terme. C'est un loisir, ça distrait les gens. Mais ce n'est pas fondamental, on peut s'en passer pour vivre. Ce n'est pas dans la pyramide de Maslow des besoins de base de la population. Alimentation, logement, etc. Donc, dans le domaine des loisirs grand public, il y a énormément de solutions qui sont dans ce registre-là. Au même titre que quand vous avez des grandes marques de télévision qui vous présentent des écrans gigantesques qui font plus de 70 pouces avec des résolutions que l'œil ne peut même pas discerner avec la 8K, on sort de l'utile, mais pourtant, ça pourrait se vendre. Donc c'est quand même de l'innovation. C'est ça, c'est contre-intuitif. Ouais. Mais une innovation n'est pas forcément utile.
Ouais. Et à ce CES de Las Vegas cette année, est-ce que vous avez vraiment vu ou anticipé des innovations qui demain sans doute se retrouveront dans le grand public ? Vous citiez la mobilité, vous citiez la 5G. Ce sont déjà quelque part des évidences. Est-ce que vous avez perçu des innovations qui vont bouleverser nos vies ?
Mais sur un salon, on trouve que des évidences, puisque la quasi-totalité des produits, des technologies qui sont présentées naissent pas comme ça brutalement début janvier. Ils sont tous basés sur des progrès scientifiques ou des progrès dans les composants électroniques qui sont intervenus bien avant. Je donne un exemple qui est simple à comprendre. Quand un constructeur annonce un nouveau smartphone, il se trouve que c'est en théorie dans quelques jours à Barcelone, si le salon a lieu, eh bien, quand un téléphone est lancé, en fait, il s'appuie sur des technologies d'écran, de processeur et de batterie qui sont connues, parce qu'elles ont déjà été annoncées avant. Donc en fait, il n'y a pas forcément de nouveauté. La nouveauté, ça peut être des choses astucieuses, des innovations sur des marchés extrêmement niches. Donc typiquement, au CES, sur les grands marchés, on va dire la télévision, la mobilité, la photo, l'audio, etc. Il n'y a pas d'innovation marquante parce que ce sont des cycles longs connus. Là où on trouve des choses intéressantes, c'est sur des petits produits de niche qui parfois font partie de l'accessoire ou de l'inutile, parfois de l'utile. J'ai vu par exemple un produit que je trouvais très intéressant dans le domaine de la santé, qui était une sorte d'accessoire qui tient dans la paume de la main, qui est capable de mesurer plein de choses sur le corps humain, à partir de technologies qui sont connues, mais ils ont tout mis dans un seul appareil et qui permet d'imaginer de faire de la médecine à distance. C'est intéressant conceptuellement.
Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, l'économiste américain Jeremy Rifkin, qu'on connaît, prône, lui, un bouleversement des fondements de notre civilisation. Selon lui, seule une économie circulaire et régénératrice pourra amener un monde plus propre et pensible, plus juste à l'horizon 2049, dit-il. Et je voulais vous demander si vous avez, vous aussi, si vous pensez que nous allons changer d'époque en passant d'une ère de progrès, d'innovation, comme vous le citez, finalement à une époque dominée par une indispensable résilience. Est-ce que cette résilience-là, vous l'avez vue, perçue au CES de Las Vegas, ou c'est encore totalement illusoire ?
Alors le thème de la résilience faisait partie des thèmes du salon officiellement depuis 2 ans. C'était la deuxième fois, donc on voyait un certain nombre de start-up ou d'entreprises présenter des solutions dans ce domaine-là. Alors la résilience, elle est multifacette. Certains exposants parlent de la résilience, par exemple pour résister aux intempéries, résister aux catastrophes. Alors il y en a qui fabriquent de l'eau avec de l'air. Bon, c'est intéressant dans certaines zones de la planète. Pour peu qu'on ait l'énergie pour alimenter le système, parce qu'il n'y a pas d'énergie, ça ne marchera pas. On a des systèmes qui permettent de faire pousser des plantes chez soi. Enfin, on se rend compte que ça sert aussi à faire pousser du cannabis, donc c'est une forme de résilience un peu particulière. On a des systèmes de résilience qui sont liés plutôt au monde de la santé. Donc le CES, côté santé, c'est un peu un monde d'hypocondriaque. Hein. C'est un monde où on voit beaucoup de produits qui permettent de mesurer un tas de trucs. Alors, suivi cardiaque en permanence, avec des montres connectées. Ouais. Tout un tas de suivis de pathologies diverses et variées. Donc, c'est une forme de résilience. C'est l'homme qui essaye de prolonger sa vie, de se surveiller. Voilà, on le voit mis à toutes les sauces, ce thème. Par contre, Rifkin, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit sur son économie circulaire, parce que souvent, son économie circulaire, elle n'est pas forcément optimable. Typiquement, il imaginait, dans certains livres qu'il a écrits il y a quelques années, que chacun produirait sa propre énergie, ses propres plantes, etc.
Tout ça, c'est pas réalisé.
Non, indépendamment du fait que c'est pas réalisé, c'est pas forcément optimum hein, pour l'économie. Quand je dis pour l'économie, pour la société en général. On a besoin d'avoir des économies d'échelle pour être efficace. Or, les économies d'échelle, elles poussent à concentrer un certain nombre de moyens de production, comme celle de l'énergie. Donc en fait, il imaginait, par exemple, dans un bouquin qu'il a écrit il y a 2-3 ans, que tout le monde aurait son plant de maïs qui servira à produire son plastique, qui alimenterait sa propre imprimante 3D. Pour fabriquer ses propres produits.
C'est vraiment la vue de l'artiste.
Si on regarde de près chacune des étapes du truc, c'est pas optimum de faire ça chez soi.
Dans un deux pièces en banlieue parisienne, ça va être compliqué.
En particulier en ville. En particulier en ville, évidemment.
Alors sur tous ces sujets de résilience, et vous avez vous-même déclaré, me semble-t-il, et c'était sur France Info, que l'informatique quantique pourra aider à résoudre des problèmes environnementaux. Alors on en vient presque à la partie pédagogie de cette émission, puisque je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur cette forme d'informatique quantique que vous avez évoquée et en quoi celle-ci pourra peut-être sauver le monde. C'est quoi l'informatique quantique ?
Alors, l'informatique quantique, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs qui, pour l'instant, n'en est qu'à ses balbutiements et qui permettra de résoudre des problèmes complexes qui sont inabordables aux ordinateurs d'aujourd'hui. Et parmi ces problèmes, il y a notamment ce qu'on appelle la simulation chimique, qui permet de simuler dans un ordinateur la manière dont les atomes sont reliés entre eux, en 3 dimensions, dans une molécule plus ou moins complexe. Alors dans un futur relativement éloigné, on estime que c'est au minimum dans une 15aine d'années, on sera capable de simuler dans l'ordinateur le fonctionnement de molécules assez complexes. À terme, pourquoi pas, par exemple, le virus, coronavirus, là, oui, pourrait être simulé, oui, dans une machine. Alors, il faut savoir que ça, on le fera que progressivement. On va commencer à le faire, comme aujourd'hui, dans des molécules qui contiennent 3, 4, 5 atomes, ça on sait le faire aujourd'hui. Ouais. Un jour on saura le faire avec 50 atomes, peut-être 100 atomes, puis après des milliers d'atomes, mais ça prendra du temps. Donc ça sera un progrès continu dans les 20 années qui viennent.
Cette émission porte bien son nom, hein, complètement à l'ouest, je suis largué là.
Bah, les atomes et les molécules, c'est pas compliqué quand même. Hein.
Non, mais par rapport à cette informatique quantique,
mais
c'est difficile.
Un ordinateur quantique, voilà, juste pour nos auditeurs.
Le temps de l'émission ne permet pas de rentrer dans les détails, mais l'ordinateur quantique, pour faire simple, il utilise des particules élémentaires qui sont soit des électrons, soit des atomes, soit des photons, c'est l'unité de base de la lumière, et il les manipule en s'appuyant sur deux principes de base qui ont été découverts il y a plus d'un siècle, qui sont d'un côté la superposition des états, c'est-à-dire que le fait que ces particules peuvent avoir deux états énergétiques simultanés.
On peut être deux endroits là, en même temps. Quoi.
Voilà, enfin pas deux endroits en même temps, mais deux états souvent énergétiques en même temps. Et un deuxième paradoxe, et un deuxième phénomène, qui est que certaines particules peuvent être reliées entre elles en temps réel. Quand on modifie une, ça modifie l'autre. Et à partir de ces deux principes-là, qui sont assez contre-intuitifs pour le commun des mortels, on arrive à faire des calculateurs qui sont extrêmement puissants.
Plus rapides ?
Beaucoup plus rapides que les machines d'aujourd'hui, mais pas pour faire de la compression vidéo ou pour faire du calcul classique, pour traiter un certain nombre de problèmes qui s'y prêtent, dont des problèmes d'optimisation, des problèmes d'optimisation des transports, des problèmes dans la finance, des problèmes dans la simulation chimique, qui peuvent ultimement servir d'outil pour les chercheurs.
Alors, comme pour l'instant, une heure fait toujours 60 minutes, et qu'on ne les a pas, ces 60 minutes, on va souffler un petit peu, et on va vous emmener dans un carnet de voyage, et on vous retrouve dans un instant avec, je vous le rappelle, Olivier Ezrati, qui est notre invité.
Complètement à l'ouest, carnet de voyage.
Mon cher Philippe, comme d'habitude, nous allons à droite, à gauche, avec des idées pour nous ouvrir la tête. Vous le dites, que voir, que visiter, où aller. Eh bien, c'est notre carnet de voyage. Je voulais démarrer avec une styliste de renom. Elle est collectionneuse, elle est mécène, elle est productrice, c'est Agnès B. Elle est sur de multiples fronts de la création et elle vient de créer et d'ouvrir la FAB. C'est dans le but d'accueillir des artistes, des actions solidaires, des animations gratuites autour de collections d'art. Alors, la première exposition qui se tient actuellement est consacré à la hardiesse. Voilà un mot qu'on n'emploie plus.
Non, un mot très rare.
Certains chevaliers, on les appelait le hardi. Hein, il y avait du panache dans tout ça. Et qui s'exprime notamment via des dessins. Alors, la FAB se situe place Jean-Michel Basquiat. Là, on retrouve un petit peu les années 60 de New York. Et l'Underground dans le 13e arrondissement de Paris. Pour en savoir un petit peu plus, vous allez sur fondagnesb.co. On va rester dans la mode.
Déshabillez-moi.
Après Agnès B, Alaya et
Allez,
Balenciaga.
Toujours en matière de mode et de belles choses, il faut aussi signaler l'exposition Alaya et Balenciaga, sculpteurs de la forme. C'est l'histoire d'un dialogue imaginaire entre le couturier disparu, Azdine Alaya, et l'autre maître de la coupe, Cristobal Balenciaga. Et c'est jusqu'au 28 juin, et pour voir cette exposition, il faut se rendre au 18 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris.
Et moi, je vous emmène à Marseille, après Paris, direction la nouvelle exposition qui se tient au MUCEM, ce beau musée qui est totalement consacré à la Méditerranée, jusqu'au 4 mai prochain. On pourra y voir une exposition intitulée Voyage, Voyage. Rien à voir avec la chanson des années 80, ouais, mais rien à voir. Elle propose une promenade avec à la rencontre d'artistes voyageurs. On ira de Paul Gauguin qui s'embarque pour Tahiti. Nous étions en 1891. À des créateurs comme Martine Parr, qui s'interroge sur la notion de tourisme et de masse et de frontières. Cette visite vous fera à coup sûr absolument voyager. Pour en savoir un petit peu plus, vous êtes connecté, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Prenez votre ordinateur et vous allez sur mucem.org.
On connaît la réplique de Lino Ventura, alias Monsieur Fernand, dans Les Tontons Flingueurs.
Entre nous, à quoi penses-tu en général ?
À Montauban. Je ne devrais jamais quitter Montauban.
Non seulement il ne faudrait jamais quitter la préfecture du Tarn-et-Garonne, mais il faut y revenir pour redécouvrir, après 3 ans de travaux d'agrandissement et de modernisation, le seul musée au monde consacré au peintre Jean-Dominique Ingres, désormais nommé musée Ingres-Bourdel. Bourdel, comme chacun le sait, sculpteur lui aussi natif de Montauban. Ce musée offre un nouveau parcours de visite, notamment digitalisé. Et donc, pour préparer sa visite, il faut se rendre sur le site web museeingresbourdel.com.
On s'est bien évadé. Allez, carnet de voyage, on retourne avec au cœur de cette émission, complètement à l'ouest, avec notre invité Olivier Ezrati. À vous.
Olivier, il y a un autre sujet sur lequel vous avez abondamment travaillé, pour lequel vous avez professé pour rendre accessible et comestible le sujet de l'intelligence artificielle. Et là encore, via votre site, oezrati.net at WordPress, on peut enfin déchiffrer ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et votre travail est bien sûr remarquable. Et la question toute simple que j'avais envie de vous poser, c'est où en sommes-nous vraiment sur l'IA ?
Le concept de l'IA, il a été imaginé dans les années 50, Aujourd'hui, on en est encore à la préhistoire, en fait, en pratique. Mais tout dépend de ce qu'on entend par intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça recouvre l'idée de faire tourner dans les machines des composantes de l'intelligence humaine. Alors, historiquement, on essayait de mettre le raisonnement, la vision, la compréhension du langage, qui sont les basiques. On pourrait y rajouter aussi la capacité à se mouvoir dans l'espace, qui est le propre des robots aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, on a un ensemble de techniques qui, dans certains cas, arrivent à imiter ou à émuler plus ou moins ce que les humains savent faire, et dans d'autres cas, pas du tout. Donc ce qu'on arrive à faire correctement aujourd'hui dans l'IA, c'est par exemple faire de la vision artificielle. On sait détecter des formes, des objets dans des images, on sait reconnaître des visages, plusieurs à la fois d'ailleurs, dans des caméras de surveillance. On sait détecter aussi des pathologies dans de l'imagerie médicale, notamment pour détecter des formes de cancer particulières. Ça, ça marche plutôt bien. Dans le traitement du langage, on a des fameux chatbots ou les fameux agents conversationnels, ou les Alexa, les Google Assistant, avec qui on peut plus ou moins bien converser, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui ne savent pas imiter totalement le raisonnement humain et la manière de parler des humains, mais ils savent répondre à un certain nombre de questions assez basiques. Pour ce qui est du raisonnement, on avait des systèmes experts dans les années 80 qui se sont déployés, ça marchait plus ou moins bien, ça continue d'être utilisé dans différents métiers, mais on en parle beaucoup moins parce qu'on parle plus du machine learning qui fait du traitement du langage et de la vision. C'est un peu tout ça l'IA. Et la robotique, elle peine à progresser. Il y a quelques progrès qui ont été réalisés récemment. Mais la robotique a beaucoup de mal à progresser. Même si on voit de temps en temps des vidéos impressionnantes de chiens robots de Boston Dynamics qui sautillent, etc. La robotique progresse relativement lentement.
Alors après, c'est vrai qu'il y a quelquefois une vision noire et pessimiste de l'IA. Et dans le rapport que je citais, vous vous employez très méthodiquement, scientifiquement, j'allais dire, à déconstruire cette IA qui fait peur. Est-ce qu'il y a vraiment matière à avoir peur de l'IA, ou est-ce que c'est qu'un fantasme quelque part de journalistes ou d'auteurs de certains livres qui s'amusent à professer cette vision-là?
Il y a des raisons d'avoir à la fois confiance et peur de n'importe quelle technologie, quelle qu'elle soit, hein, dans le domaine des transports, de l'énergie, on peut avoir aussi peur des technologies. Alors l'IA, elle est capable du meilleur et du pire, mais elle est souvent toujours sous le contrôle des humains. Hein. Typiquement, quand on entraîne une IA à faire des prédictions, ou à classifier des situations, des objets ou des personnes, bah, si les données d'entraînement sont biaisées parce que le passé n'est pas complet, le passé qui alimente les données d'entraînement, c'est pas complet, la société elle-même gère des biais, elle a des biais, donc si on intègre les biais de la société dans un système, bah, le système ne va faire que proroger les biais de la société. Donc toutes ces choses-là, elles sont connues, hein. Il y a tout un champ scientifique qui s'est développé autour, sur ce qu'on appelle les biais des algorithmes, le biais des données, sur l'éthique de l'IA. Il y a des raisons d'être vigilant. Bon, voilà. Par contre, avoir peur de l'IA qui s'inspire de la science-fiction avec une espèce Terminator. D'IA qui prend le contrôle de l'humanité, comme dans Skynet ou autre, là, évidemment, c'est hors de propos, en tout cas, vu l'état de l'art actuel. L'IA d'aujourd'hui, elle est sous le contrôle de l'homme et elle peut démultiplier la bêtise humaine, ça c'est sûr, mais elle peut aussi démultiplier l'intelligence humaine quand elle sert à la recherche, quand elle sert dans la santé, quand elle sert dans d'autres domaines. Elle est capable des deux, en fait.
Voilà, notre invité nous a bien recadré. Olivier Ezrati est avec nous sur Radio Imo. Nous parlons ce matin des technologies du futur désirables. Et on va notamment rester, mon cher Philippe, grâce à vous, dans le thème de l'émission, en écoutant un morceau composé par une intelligence artificielle.
Alors tout ça est très sérieux puisqu'il s'agit de l'application Amadeus Code, que notre invité connaît sans doute, sortie en 2018 et qui est capable de composer de la musique d'après un fond musical de millions de morceaux, y compris les derniers titres à la mode. Écoutons ce que la machine a produit. Là, parce qu'on a vraiment envie que cette bouillie cesse cette fois, et sans IA ajoutée, reposons nos oreilles avec cette merveille de délicatesse signée Mozart, qui n'était pas une IA.
Et là, c'est la version originale. Thank you. Voilà, Mozart en version originale, sans y ajouter. Philippe, merci d'avoir fait cette comparaison.
Comparaison n'est pas raison.
Et on est bien d'accord. Alors, ça va être intéressant, avant de reprendre ce dialogue avec Olivier Ezrati, notre invité. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de ce morceau de musique qu'on a écouté via, au départ, Mozart, en intelligence artificielle? Franchement.
Je préfère la flûte enchantée.
Et ben voilà, tout est dit.
C'est plus créatif. Y a plus de... En fait, il y a des scientifiques de la BBC qui ont essayé d'analyser ce qui faisait qu'une musique de pop était populaire. Et ils ont rendu compte qu'il y avait une question de rythme, une question d'harmonique et une question de nombre de gammes utilisées, en fait. Et donc, quand c'est monotone, ça passe pas très bien. Quoi.
Non, ça passe pas très bien. Ouais. Allez, on va terminer cette émission avec la dernière partie de l'interview.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Alors, au cours des 10 dernières années, on nous a véritablement rebattu les oreilles avec le mot « disruption », mis à toutes les sauces, entendu comme étant quelque chose qui cassait tous les codes connus et qui allait abattre presque tous les acteurs de la vie économique. Est-ce que le monde des nouvelles technologies est encore disruptif?
Oui, certainement. Mais il n'est pas forcément là où on le croit. Et parfois, il l'est avec un effet retard. Par exemple, ça fait au moins 15 ans, 20 ans qu'on pense que les technologies vont disrupter le monde de la banque ou le monde des moyens de paiement. Ça arrive lentement, mais enfin, les banques vont pas très bien aujourd'hui. Il y en a qui licencient. C'est bien le résultat d'un certain nombre de phénomènes. Mais très souvent, la technologie n'est pas seule pour expliquer la disruption. C'est souvent le couplage de la technologie, de phénomènes sociétaux, de phénomènes parfois politiques, réglementaires, géopolitiques, qui expliquent des mouvements sismiques qui vont transformer l'industrie. Donc typiquement, par exemple, le smartphone, qui n'est qu'un objet, il a transformé le métier d'opérateur télécom.
Le 22 annière, voilà. On ne le demande plus.
Mais ce n'est pas simplement ça. Il faut savoir qu'avant le smartphone, les opérateurs télécoms avaient leur propre place de marché d'application, avec des téléphones qui étaient déjà connectés à Internet, mais qui ne s'appelaient pas des smartphones, avant 2007. Puis depuis, c'est Google et Apple qui ont pris le contrôle de nos magasins d'applications au détriment des opérateurs télécoms. On peut dire que les opérateurs télécoms ont été disruptés par le smartphone. De ce fait-là, ils ont perdu le contrôle d'une partie de la relation client. C'est un exemple. Alors, c'est arrivé aux agences de voyage qui ont été remplacées par des sites en ligne de réservation. C'est arrivé à tout un tas de métiers.
L'automobile, par exemple.
L'automobile, ça pourrait arriver, mais c'est pas encore le cas. Il y a encore des constructeurs automobiles. Ils vivent une disruption qui est le passage à l'électrique, à l'hybride, qui est compliqué parce que c'est beaucoup d'ingénierie et de changement de processus, de fabrication. C'est aussi un changement sur les énergies qui alimentent les véhicules. Mais il n'est pas impossible que le passage dans les années qui viennent au tout électrique et aux véhicules semi-autonomes transforme encore plus radicalement cette industrie. Il n'est pas impossible aussi que dans 20 ans ou 30 ans, il y ait de moins en moins de véhicules possédés par les particuliers, mais plus loués sous forme d'abonnement, au même titre qu'on a des VTC aujourd'hui. Donc voilà le genre de disruption qui peuvent intervenir dans certains secteurs d'activité.
Philippe, c'est déjà la dernière question. Alors vous allez faire un choix judicieux.
Ça va être très difficile.
C'est difficile.
Quand on tient Olivier Ezrati, on ne veut pas le lâcher comme ça. Alors peut-être la dernière question en vous demandant, et pour reprendre le titre de cette émission, comment rendre le futur désirable?
C'est une très bonne question, j'en ai fini. Rendre le futur désirable, c'est lié à la manière dont on met en valeur les innovateurs de ce bas monde. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs manières de faire. D'abord, la première, c'est déjà qu'au niveau de l'innovation, on finance les projets qui sont vraiment utiles pour la société, qui traitent des problèmes de fond dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, etc.
L'environnement,
évidemment. Et le deuxième point, je pense, c'est qu'on... Enfin, c'est juste un avis personnel du moment. Je pense qu'il serait intéressant qu'on revalorise les sciences, qu'on revalorise le côté positif des sciences, qu'on revalorise le travail de tous ces scientifiques et de ces chercheurs qui cherchent effectivement à améliorer le monde, qui ne sont pas très connus aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, et qui ont besoin vraiment d'être mis au goût du jour, alors qu'on est dans l'ère des fake news, l'ère de beaucoup de fake news, même sur le domaine scientifique et technologique. Il y a plein de gens qui croient un tas de trucs qui n'ont aucun sens dans la santé, dans les transports, dans l'énergie. Et il faut revenir un peu les pieds sur terre et en mettant en valeur ce qui est noble dans le monde des sciences.
Merci infiniment Olivier Ezrati d'avoir été notre boussole pour cette émission de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous êtes auteur et conférencier sur de très nombreux sujets technologiques. L'ensemble de vos écrits pouvant bien sûr être consultés, et gratuitement, il faut le souligner, sur votre blog. L'adresse du blog sera mentionnée dans l'émission. On mettra donc bien sûr toutes ces informations sur la page de l'émission. Merci Billy et à toute l'équipe de Radio Imo qui a œuvré à la préparation de cette émission. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée sans modération en podcast sur le site de Radio Emo et sur tous les players, comme on dit. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, et vous l'avez dit, le mois prochain, pour reprendre les paroles de Jacques Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. On est en plein dans les dégâts, donc je vous conseille de nous rejoindre le mois prochain. Merci à tous les deux, bonne journée.
Merci à tous.
Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.